Il est 18h06, j'accueille en studio Jean-Sébastien Fallu. Jean-Sébastien Fallu, vous l'entendez souvent dans les médias intervenir sur les questions de drogue, de dépendance, comment expliquer les drogues, qui incluent l'alcool, à nos enfants. Il est fondateur et co-porte-parole de l'organisme Grippe Montréal, co-auteur, et c'est pour ça qu'on le reçoit, du livre « Cannabis », qui parle d'un sujet chaud, le pot. Bonjour Jean-Sébastien Fallu.
Bonjour, oui. En fait, co-directeur, parce qu'il y a plusieurs auteurs dans ce livre-là, puis je l'ai dirigé avec des collègues de l'Institut universitaire sur les dépendances où je suis chercheur, puis c'est ça. Évidemment, dans le contexte de la légalisation, on s'est dit, c'est l'occasion de faire un livre qui fait un peu le tour de la question d'un point de vue rigoureux avec l'ensemble des collègues au Canada. Il y en a un qui vient d'Europe, qui travaille sur la question du cannabis. Il y a trois axes au livre. La première partie, c'est l'histoire de la prohibition, les droits, la légalisation, les politiques, les modèles d'encadrement du cannabis. La deuxième partie, c'est sur le produit comme tel et ses effets psychosociaux sur le cerveau, par exemple. Puis la dernière partie, c'est sur les interventions, prévention et traitement.
Avant de rentrer dans le cœur de l'entrevue, je veux juste dire, je vais te tutoyer. Mm-hmm. Je suis pas capable de te vouvoyer. Puis, transparence totale, Jean-Sébastien, c'est un gars avec qui je suis allé à l'école. Mm. Donc, à la petite école, comme on dit. Donc, je suis incapable de le vouvoyer ici. OK, ça fait un an que le cannabis, à peu près, a été légalisé au Canada. Ça a été une forme de révolution à l'échelle de la planète. Un an plus tard, Est-ce que c'est le chaos social qui avait été prévu par plusieurs personnes?
Je dirais prévu surtout par des politiciens, des chroniqueurs, pas tous, et des parents, mais peu d'experts prédisaient une apocalypse, puis il n'y en a pas comme on s'attendait. Évidemment, il n'y a rien de parfait, puis j'entends malheureusement souvent des gens dire c'est un échec parce qu'on n'a pas remplacé le marché illégal pour telle raison. C'est trop tôt pour conclure, mais c'est trop tôt aussi pour espérer faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'ici, puis on va continuer de suivre la question. Mais c'est clair que non. Les scénarios apocalyptiques annoncés, puis des fois, c'était vraiment les mots utilisés. Là, ça va être l'apocalypse, puis ça va être la psychose partout. C'est pas le cas, là, puis je pense pas que ça sera jamais le cas. Ça pourrait quand même aller vers un modèle dans 15-20 ans. Moi, c'est ma principale préoccupation, qui ressemble à ce qu'on a avec l'alcool, qui est trop banalisé, puis qui est peut-être pas assez strictement encadré, et qui favorise l'usage et les méfaits.
On va parler d'alcool aussi, qui est une forme de drogue. Je suis avec Jean-Sébastien Fallu, qui est un spécialiste des dépendances. Vous l'avez souvent entendu parler de drogue dans les médias. Et là, un an plus tard, après la légalisation du cannabis, il sort un livre qui s'intitule « Cannabis ». Justement, Jean-Sébastien, je veux rapporter ça sur le plancher des vaches pour les parents, OK? Quand on est grand et qu'on décide de fumer du pot, c'est une chose, mais quand tu as un ado de 14, 15, 16 ans, à moins de vivre sous une cloche, ces ados-là sont l'objet de beaucoup de tentations. Comment on parle des dangers du pot, parce qu'il y en a, avec nos ados?
Mais puis effectivement, les jeunes consommaient avant la légalisation, puis consomment après. La question, c'est est-ce que ça va être plus? Puis pour l'instant, c'est pas le cas, et puis espérons que ça reste comme ça. Comment on parle? On en parle d'abord en maintenant une relation positive avec notre adolescent. C'est sûr qu'on va parler différemment à différents âges, là. On va pas parler des mêmes sujets, mais concrètement, faut maintenir une bonne communication, une bonne relation, puis exprimer ses craintes sans dramatiser, sans exagérer, puis sans non plus, de l'autre côté, en faire un sujet tabou, en parler comme tout autre sujet, dans les nuances, en exprimant effectivement ses craintes. En disant, peut-être, ça dépend des valeurs de chacun puis des parents, mais de dire, ben, il y a des risques, puis c'est pas pour rien que c'est pas avant 18 ans. J'aimerais mieux que t'en prennes pas, par exemple. Mais si t'en prends, fais attention à toi, puis maintenir cette communication-là, parce que sinon, le jeune qui le fait, s'il a peur de représailles, par exemple, mais il n'en parlera jamais. Puis c'est ça, l'accompagner là-dedans, lui dire qu'il y a des moyens concrets pour réduire les risques, effectivement, d'attendre le plus longtemps possible, mais sinon, d'avoir des doses faibles, de choisir des produits. Là, c'est difficile pour les adolescents, malheureusement, là, mais des produits qui ont du CBD dedans. De choisir le bon moment aussi. Là. Il y a des bons moments en termes de lieu puis d'état d'esprit, ou des moins bons moments, là, disons-le comme ça. Quelqu'un qui va pas bien ou qui s'en va conduire une voiture ou qui s'en va à l'école, c'est peut-être pas un bon moment, par exemple, ou devant un poste de police.
C'est quoi l'erreur que les parents font souvent dans cette communication-là, au moment d'aborder avec leurs adolescents. Puis je parle d'ados, là, 14, 15, 16 ans. Évidemment, là, si vos jeunes ont 20 ans, c'est pas la même chose. Mais c'est quoi l'erreur qu'on fait avec nos ados?
Je pense qu'on fait l'erreur de ne pas les faire réfléchir par eux-mêmes, puis qu'eux-mêmes identifient c'est quoi pour toi qui serait trop, c'est quoi pour toi qui serait risqué, puis d'être moralisateur et paternaliste, puis de tomber. Puis je comprends, là, j'ai des enfants, ils sont pas rendus à cet âge-là, mais il y a une période à l'adolescence qui est tout à fait inévitable, où il y a des prises de risques, puis c'est stressant pour un parent. Mais je pense qu'il faut quand même faire confiance, puis... travailler avec et pas essayer de dire quoi faire. Et justement, ce paternalisme-là, de tomber même dans une crainte. Souvent, j'en parle à des parents qui me disent « Bien, moi, je l'ai fait, puis ça a bien été, mais j'ai peur pour mon enfant. » Évidemment, oui, mais dis-lui ça. Puis dis-lui aussi que parce que toi, ça a été bien, peut-être que lui, ça ira pas bien. Mmh. Si toi, t'as consommé, mais on peut parler de sa consommation d'alcool, c'est tout le même sujet, là. Je pense que l'erreur, c'est ça. C'est de dramatiser, de moraliser, puis de dire quoi faire.
Mais en même temps, Jean-Sébastien Fallu, tu le sais, tu es un expert des dépendances. À l'époque, ce qu'on appelle à l'époque, là, il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans, ben probablement que le pot était moins fort qu'aujourd'hui. Je te parle du pot de la rue, évidemment. Là.
Oui, effectivement. Par contre, il y a des études qui montrent que les consommateurs s'adaptent. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on faisait des gros, gros joints. Maintenant, c'est plus des petites aiguilles, parfois quelques petites puffs. Puis... Oui, puis ça, c'est un sujet qu'on peut aborder aussi, effectivement. Puis c'est un des coupables, le THC. Puis c'est pour ça que je disais d'essayer d'aller chercher des produits qui ont du CBD, parce que c'est moins ça qui est coupable potentiellement des effets peut-être toxiques au niveau du cerveau ou sur les cognitions. Puis on pourra en reparler aussi des risques concrets, parce que les gens aiment ça, savoir c'est quoi les risques. Puis il y a eu une discussion au Québec autour du cannabis, mais je pense qu'on a oublié de faire la nuance entre un risque puis une conséquence.
Et une certitude.
Et une certitude. Oui. Puis malheureusement, ça part de bonnes intentions, mais on a répété des chiffres des fois, par exemple, qu'il y a 40 % plus de chances de faire une psychose quand on consomme du cannabis. Il y a des gens qui me disent « t'as 40 % de chances de faire une psychose si tu fumes du cannabis », mais c'est vraiment loin d'être ça. Là. C'est beaucoup plus rare que ça.
En fait, si je comprends bien, Jean-Sébastien Fallu, c'est que les psychoses sont rares, mais quand on consomme du cannabis, on a plus de chances d'en avoir.
C'est ça, effectivement. Est-ce que c'est le cannabis? Est-ce que c'est ça aussi? Là,
Il y a la génétique, il y a le pas assez familial.
Il y a
familial.
Des problèmes de santé mentale. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont portés, puis même dans les experts, il y a des débats, puis il y a plus de soutien à l'hypothèse que quand tu as des problèmes de santé mentale, tu es plus porté à consommer. C'est sûr que si on regarde juste vite, il a pris du pot, toute sa vie va mal, maudit pot, mais c'est peut-être pas vraiment la cause première.
C'est mieux. Je sais que c'est illégal de prendre du pot qu'on achète à la SQDC puis le donner aux ados. Là.
C'est même passible de 14 ans de prison.
En effet. Mais dans un monde idéal, est-ce que c'est mieux de prendre du pot de l'État que de prendre du pot dans la rue? Il me semble, mon réflexe, moi, je ne suis pas un consommateur, mais il me semble que mon réflexe, c'est de penser que le pot qui est dans la rue va être pas mal plus dangereux.
En général, oui. Il y a des exceptions à ça, comme toujours, parce qu'il y a des gens dans la rue qui font ça bio puis que... Mais le cannabis de l'État, l'avantage, c'est qu'il y a quand même une connaissance des taux de THC. Et oui, il y a des tests, c'est pas parfait, mais pour les moisissures, les métaux lourds, les engrais chimiques qui peuvent être eux-mêmes néfastes pour le cerveau. Donc, en général, oui, avoir un cannabis contrôlé, c'est mieux.
Donc, question plate, est-ce que dans un monde idéal, est-ce que même les ados devraient pouvoir aller acheter du pot à SQDC? Parce qu'on sait qu'ils vont en trouver dans la rue.
C'est sûr qu'ils vont en trouver dans la rue. Le sénateur Nolin défendait l'idée de 16 ans. On n'a pas beaucoup parlé, puis là, on est rendu à 21, puis il y en a qui veulent 25.
Mais... Sénateur Nolin qui a été... Oui. Dont c'était une des croisades politiques.
Exactement.
Là, de la légalisation de plusieurs drogues.
Et récemment, j'ai été content d'entendre Daniel Weinstock, un collègue éthicien, philosophe de McGill, militer pour que les jeunes aient accès au cannabis à partir de 16 ans, dans une optique de réduction des méfaits, justement pour toutes les raisons qu'on dit, qu'ils ont accès à un produit de qualité, mais aussi à l'information, puis qu'ils ne soient pas obligés d'aller acheter le cannabis sur le marché illégal auprès de gens qui leur offrent d'autres choses. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas penser rendre ça accessible à un très bas âge. Par contre, je pense qu'il faudrait atténuer, parce que je connais un cas là, qui va aller devant les tribunaux, d'un jeune de 17 ans qui s'est fait prendre avec 11 grammes et qui est maintenant poursuivi au criminel.
11 grammes, je connais rien là-dedans, moi, Jean-Sébastien Fallu. C'est-tu beaucoup, c'est-tu pas beaucoup?
C'est 11 grammes. Avec un gramme, on fait 2-3 joints. Mais la loi maintenant a été modifiée pour que jusqu'à 18 ans, si on a 5 grammes et moins, c'est rendu plus criminel. Mais les adultes, c'est 30 et moins. Donc, je pense que c'est pas une bonne voie là, d'être plus sévère avec les adolescents.
On a beaucoup focalisé sur le pot dans la dernière année et demie, dans les dernières 2 années, parce qu'on savait que la légalisation s'en venait. Et moi, j'ai eu l'occasion d'écrire dans la presse là-dessus, il y a peut-être un peu quelque chose comme un aveuglement collectif là-dedans, parce que la drogue la plus répandue et la plus toxique, c'est pas le pot.
Effectivement,
c'est l'alcool.
On le répète, tu l'as dit, je l'ai dit, plusieurs le disent, mais politiquement, culturellement, ça, on n'est pas là. Mais c'est sûr que, objectivement, oui, ça n'a pas de bon sens qu'on ne s'inquiète pas d'abord ou qu'on ne s'attarde pas d'abord à la question de l'alcool, ne serait-ce que parce qu'il est largement consommé beaucoup plus que le cannabis et parce que, oui, les conséquences en termes d'accidents, de toxicité physique, de risque même de cancer, de décès, là. De risque psychiatrique même. L'alcool, c'est au niveau dépression plus puis anxiété, mais c'est vraiment beaucoup mieux documenté et des conséquences de plus grande ampleur. On devrait vraiment se préoccuper d'abord de ça.
Pourquoi est-ce que collectivement, on n'a pas la même obsession des méfaits de l'alcool, des dégâts de l'alcool qu'on peut l'avoir pour le pot?
C'est une excellente question. Je pense que la réponse, c'est ça. C'est qu'il n'y a personne dans notre société qui est né dans une société qui n'était pas consommatrice d'alcool.
Ça a toujours été là.
Ça a toujours été là. Le cannabis, on a toujours été dans une situation, et là maintenant, pas depuis 10 mois, où c'était non seulement interdit, mais c'était démonisé. Et ça, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain.
Toi, Jean-Sébastien Fallu, qui parle théoriquement, si on veut, de ces drogues, de la dépendance, du fait qu'il ne faut pas toujours paranoïer face à ça, dans la pratique, là, quand tes enfants vont venir te voir, là, qu'est-ce que tu vas leur dire?
Bien, je vais leur dire un peu ce que je disais tantôt. Ce ne sont pas des produits banals. Je le sais que il y a de fortes chances que tu essayes ça un jour, un ou l'autre. C'est vraiment mieux d'attendre le plus longtemps possible pour toutes sortes de raisons. Les risques sont plus importants quand tu es jeune. Puis que oui, je dis pas ça pour être moralisant puis paternaliste, mais parce que je tiens à eux. Puis que s'ils le font le jour qu'ils le font, je veux qu'ils m'en parlent, puis je vais essayer de les accompagner là-dedans et je vais leur donner tous les conseils que je nommais tantôt, là, de vaporiser si c'est du cannabis, si c'est l'alcool, de boire de l'eau, de pas consommer seul, d'espacer les consommations, de choisir le moment, de pas conduire au volant et tout ça, puis je vais leur demander de faire attention à eux.
Si je te connaissais pas depuis le secondaire, je te dirais pas ça, mais tout ce que tu dis là dans la théorie, là, c'est parfait. Mais quand tu arrives entre quatre yeux avec ton ado, là, tu vas voir, c'est pas mal plus compliqué.
On verra. Jusqu'ici, mon rôle de parent n'a pas changé selon ma théorie.
Je te le souhaite. Jean-Sébastien, merci d'être venu nous voir. Je vous rappelle que Jean-Sébastien Fallu est professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances. Il vient de diriger un livre qui vient de sortir qui s'intitule « Cannabis, sujet très brûlant ». Merci beaucoup.
Aux presses de l'Université de Montréal.
Voilà.